France Inter.
7h.
France Inter. Léa Salamé, Simon Le Baron. Le 7-10.
Et nous sommes le mercredi 8 mai. Bienvenue sur Inter et bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la flamme olympique qui va briller à Marseille.
Arrivée au bord du Bellem, c'est le jour J dans la cité phocéenne et sur le Vieux-Port. Nous sommes en direct de Marseille. Feu vert hier pour le PR de Flamanville et maintenant, on fait le point sur les prochaines étapes avant la mise en service. Au tribunal de New York, le récit cru de Stormy Daniels sur sa rencontre avec Donald Trump et puis des Parisiens trop peu inspirés. Le PSG échoue une nouvelle fois à se qualifier pour la finale des champions de football, battu hier 1-0 par Dortmund.
Les invités de France Inter ce matin, Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
La contorsionniste d'interview, comme vous appelle Daniel Morin, à 7h50.
Eh ben les JO en France, quand même, on n'a pas vu ça depuis un siècle, une journée de fête incroyable à Marseille, sous les yeux du monde. Tony Estanguet, l'homme qui porte la candidature de la France depuis 10 ans, le président de Paris 2024 est notre invité. Et je vous promets aussi, Simon, une surprise à 7h50.
Tout à l'heure. À 8h20, nous serons avec la députée responsable du programme de la France Insoumise, Clémence Guettet. Et à 9h20, Léa Salamé recevra le journaliste Robert Namias pour son nouveau roman.
France Inter.
Les Jeux Olympiques de Paris, c'est à Marseille qu'ils débutent aujourd'hui. La cité phocéenne, centre du monde, 1 milliard de téléspectateurs espérés pour voir ce soir débarquer la flamme olympique sur le sol français. 150 000 personnes attendues sur place, 1 500 journalistes accrédités. Alors depuis quelques jours, le Vieux-Port est minutieusement nettoyé. C'est là qu'entrera en majesté le trois-mâts, le Bellem, qui rapporte de Grèce la flamme olympique. Fabien Ledu, le Vieux-Port est astiqué comme jamais.
Ah, c'est sûr que Kathleen, serveuse au bar tabac, la canne-bière, voit la différence.
C'est vrai que c'est bien propre, hein, on est d'accord, comparé à d'habitude.
Hydrodécapage, pulvérisation thermique, nettoyage haute pression, Colette, qui habite le Vieux-Port, n'en revient pas.
Comment ça se fait que ce soit si propre ? C'est nickel, je suis fière d'habiter au Vieux-Port.
La chaussée est comme neuve, les poubelles sont rangées, l'eau du Vieux-Port passée à l'épuisette.
Magnifique.
Le Vieux-Port est plus que sur son 31, selon Roger.
Même sur le 33, non ? C'est pas ça, quand même un événement, là, non ?
Un Vieux-Port qui accueille aussi un écran géant impressionnant, des projecteurs, des enceintes, de plusieurs mètres de haut.
C'est énorme.
Fred, qui est aux premières loges dans la brasserie Oscar, est impressionné par les installations techniques.
Ça me rappelle un peu Marseille 2013. C'est une belle logistique quand même, oui. Il y a du gros son, il y a des beaux écrans géants. Puis bon, je pense que ça va être une belle journée de fête.
Fred qui espère que sa brasserie apparaîtra ne serait-ce que quelques secondes sur les télévisions du monde entier.
Dès qu'il y a un événement qui se passe sur le Vieux-Port, on nous voit un petit peu, ouais. Donc là, je sais pas, on verra bien avec les images. Et les touristes qui sont venus jusqu'à présent, ils vont peut-être dire « Oh là là, mais on avait mangé là !» C'est possible.
Des touristes en masse donc pour assister à l'allumage du chaudron, puis au début du relais, rituel moins antique qu'il n'y paraît. Ce n'est qu'en 1928 à Amsterdam que la flamme fut allumée pour la première fois. Premier relais en 1936 pour les JO de Berlin de l'Allemagne nazie. Et depuis 1964, la flamme est donc allumée à Olympie en Grèce. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Marseille, on le disait, centre du monde olympique aujourd'hui. C'est un peu le vrai coup d'envoi des Jeux de Paris.
Il faut imaginer que ce moment, les organisateurs des Jeux en rêvent depuis des années, un scénario qui pouvait d'ailleurs paraître au départ un peu utopique, amener la flamme depuis la Grèce, par la mer, sur un vieux gréement, avec une fête qui dépasse presque l'entendement. Force est de constater que le pari est réussi avec cette journée, vraiment pas comme les autres qui se préparent ici à Marseille. Vous avez rappelé les chiffres affolants, 150 000 personnes attendues sur le Vieux-Port à partir de cet après-midi, 6000 policiers et gendarmes, c'est du jamais vu dans la cité phocéenne. Et depuis que nous sommes arrivés lundi, on peut le constater, ça grouille de monde partout autour du Vieux-Port. Bref, on peut le dire sans se tromper, ce relais de la flamme démarre très fort. L'avant-Jeux Olympiques est lancé idéalement.
Vous l'avez dit, la flamme arrive en fin de journée. Alors quel est le programme de cette journée ?
Alors déjà, à partir de 11h, on pourra voir enfin le Bellem au large des côtes après sa traversée de la Méditerranée avec une parade nautique là aussi impressionnante. 1024 bateaux de plaisance pour l'escorter avec beaucoup d'animation en mer. Puis le grand moment, c'est à partir de 19h, l'entrée du trois-mâts dans le Vieux-Port. Il va s'amarrer à une piste flottante à 19h40. Le nageur Florent Manaudou descendra avec la torche premier relayeur sur le sol français. Puis le chaudron sera enflammé, alors sans doute par un invité surprise, c'est en tout cas ce qu'on nous promet. tournée avant un grand concert avec soprano en tête d'affiche.
Jérôme Val, merci, en direct de Marseille avec Benjamin Ries. On reparle de cet événement évidemment à 7h50 avec Tony Estanguet, présidente Paris 2024.
Lui a joué l'Arlésienne pendant plus de 10 ans.
Oui, loin de Marseille, le PR de Flamanville, chantier laborieux débuté il y a 17 ans et qui va enfin pouvoir entrer en service à l'été prochain avec 12 ans de retard et une facture 4 fois le prix du devis initial, plus de 13 milliards d'euros. Ce réacteur nouvelle génération avait été lancé au début des années 90 après Tchernobyl. Le gendarme du nucléaire a donc donné son feu vert hier au chargement du combustible. Début, Delphine Simon, d'un long processus jusqu'à la mise en route.
C'est une question d'heure ou de jour. EDF va commencer à charger le combustible nucléaire dans le réacteur, le 57e du parc nucléaire français. Une opération inédite depuis les années 90. L'opérateur va tester le réacteur cœur chargé en faisant monter le circuit primaire en pression et en température, le temps d'initier le processus de réaction en chaîne. Le groupe vise un raccordement au réseau électrique cet été. Lorsque l'EPR atteindra un quart de ses capacités, c'est alors qu'il injectera ses premiers électrons. Il faudra ensuite plusieurs mois avant d'atteindre la pleine puissance. Des essais vont être menés sur son cœur afin de le pousser dans ses retranchements. Toutes ces étapes seront soumises à de nombreux contrôles, notamment de la part du gendarme du nucléaire, explique son directeur adjoint Julien Collet.
La première étape, c'est le démarrage de la réaction nucléaire. Et ensuite, il y a deux accords. L'un, lorsque le réacteur atteint 25% de puissance. Et puis, un dernier accord à 80% de puissance, qui est le dernier accord avant que le réacteur atteigne sa mise en service commerciale.
Objectif, fonctionner à pleine capacité avant la fin de l'année. La direction du site reste prudente sur le bon déroulé de ce calendrier, sans compter qu'il va falloir changer le couvercle de la cuve, entaché d'anomalies de fabrication, 15 à 18 mois après sa mise en service.
Une énergie nucléaire, alors que le monde a franchi pour la première fois en 2023 le seuil de 30% de production électrique d'origine renouvelable, grâce surtout au solaire et à l'éolien. Selon le Centre de recherche sur l'énergie Amber, on verra peut-être cette année décliner la production électrique d'origine fossile. Ces énergies fossiles, responsables du changement climatique, le mois d'avril comme le mois de mars avant lui, établit un nouveau record mensuel de chaleur sur la planète et les océans, bilan ce matin de l'Observatoire Copernicus. La police a pénétré à nouveau hier à la Sorbonne à Paris pour y évacuer des étudiants pro-palestiniens qui occupaient un amphithéâtre. Force de l'ordre aussi pour faire le ménage devant Sciences Po après les nombreux messages de fermeté envoyés par le gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur dénonce d'ailleurs des violences intolérables contre des agents publics. À Lille, ce sont des lycéens qui se sont mobilisés hier en soutien aux habitants de Gaza. 300 jeunes devant le lycée international Montebello et parmi eux, Morgane en terminale.
Nous, on est des jeunes, on a 17, 18. 19 ans, et ça nous touche en fait, puisque on se dit, nous on a la chance de pouvoir aller à l'école, d'avoir accès à l'éducation, alors que là-bas il n'y a même plus d'université. On est des enfants du monde, et je pense que qu'il y ait des frontières ou pas en fait entre nous et eux, il n'y a absolument pas de raison de ne pas se sentir touché, de ne pas se sentir effrayé par ce qui se passe là-bas, et c'est humain de ressentir ça, quoi. Faut se rendre compte en fait que c'est pas parce que on n'a pas de responsabilité qu'on devrait pas pouvoir montrer à quoi on tient, montrer quelle valeur on a. C'est de la mobilisation pacifiste, vous savez, donc on fait de mal à personne, on s'en donne. C'est juste de partager des slogans, de réveiller les consciences.
Morgane, une lycéenne de Lille. Hier soir, le candidat socialiste aux européennes, Raphaël Glucksmann, a dit s'opposer à l'expulsion des étudiants à partir du moment où c'est une mobilisation pour la paix et pas pour la destruction d'Israël. Cette mobilisation est parfaitement légitime, dit Raphaël Glucksmann. Pour lui, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est cataclysmique. Gaza, où l'armée israélienne multiplie ses frappes, 7 membres d'une même famille tués dans un bombardement ce matin dans le nord, selon des témoins. Les chars israéliens se déploient à Rafah. L'armée a pris le contrôle du passage avec l'Égypte et a fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire, une mesure jugée inacceptable par les États-Unis qui ont suspendu la semaine dernière une livraison de plus de 3000 bombes à Israël face aux inquiétudes sur l'offensive contestée sur Rafah. Washington qui suit de près par ailleurs ce qui se passe au tribunal de New York, le procès de Donald Trump et cette audience particulièrement tendue hier puisque Stormy Daniels était à la barre, cette ancienne actrice porno par qui le scandale est arrivé. Elle avait reçu 130 000 dollars à la toute fin de la campagne présidentielle de 2016 pour se taire sur sa relation sexuelle avec le républicain 10 ans plus tôt, relation toujours niée par Donald Trump. Hier, Sébastien Paour, l'ancienne star du X, a raconté en détail cette soirée de 2006.
Elle décrit une rencontre très brève en marge d'une compétition de golf au lac Tahoe dans le Nevada. Trump a 60 ans. Il s'est marié l'année d'avant avec sa troisième femme, Melania. Leur fils, Baron, n'a que quelques mois. Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, a 27 ans. Et Trump l'invite m'invite à dîner dans la suite de son hôtel. Une chambre, dit-elle, trois fois grande comme mon appartement. Elle est en robe et talons dorés. Il l'accueille devant la télé en pantoufles et pyjama. Elle lui demande s'il a piqué sa tenue au patron de Playboy. Trump la questionne sur l'industrie du porno, lui demande de lui dédicacer un DVD, lui dit qu'elle lui rappelle sa fille et qu'elle devrait participer à son émission de télé-réalité The Apprentice. À son retour des toilettes, il est nu sur le lit. L'actrice décrit ses jambes qui tremblent, comme quand on se lève trop vite, le rapport de force déséquilibré, puis une relation sans préservatif et la honte de ne pas avoir dit non. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et l'interrogatoire de Stormy Daniels se poursuit aujourd'hui.
7h10 sur France Inter, en ce 8 mai, 79e anniversaire de la capitulation allemande. On vous raconte l'histoire d'un soldat oublié.
L'un des 250 000 militaires français morts lors de la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses cérémonies à leur hommage ont lieu aujourd'hui partout en France, autour des monuments aux morts, en Seine-et-Marne. On va se souvenir aujourd'hui particulièrement d'un soldat jusqu'à présent oublié. Reportage François Ventéjou.
Sur le monument aux morts de Brécontre-Aubert, ils ne sont plus 8, mais 9 soldats tués lors de la Seconde Guerre mondiale. Le nom de Charles von Kaenel vient d'être ajouté, comme le raconte le maire de la commune, Jean Laviolette.
On n'avait jamais été informé de ce décès, et c'est parce que sa petite nièce nous a informé, nous expliquant qu'elle avait fait des recherches et que son grand-oncle, vivant à Brécontre-Aubert à l'époque, était mort.
Mort en 1942 lors de la bataille d'El Alamein en Égypte. Et ça, sa petite nièce, Élodie Boisfarmanien, l'a découvert en travaillant sur la généalogie de sa famille.
J'ai un rapport du capitaine de Haute Cloque qui stipule qu'il est décédé à 2h30 le 24 octobre à cause d'éclats de buis au ventre et à la tête.
Parmi les dizaines de documents réunis sur son grand-oncle, il y a une photo qu'elle garde précieusement.
Je crois que c'est ça qui m'a plus émue dans tout le dossier en fait. Au-delà d'un nom, il avait, c'est bête à dire, mais un visage aussi.
Pour cette passionnée d'histoire, ses recherches font partie du devoir de mémoire.
C'est aussi pour ma fille, pour mes petits cousins, pour les futures générations, de se dire que des gens de la famille n'ont pas fait que traverser, ils ont laissé une marque et que c'est ce nom inscrit. C'est notre ancêtre à nous aussi qui a participé et qui malheureusement a dû donner sa vie.
La famille sera réunie ce matin autour de cette plaque qui rend enfin hommage au sergent von Kaenel.
Et à 11h ce matin, Emmanuel Macron présidera lui la cérémonie de la commémoration de la victoire du 8 mai à l'Arc de Triomphe à Paris. Le chef de l'État qui, dans le magazine Elle, qui paraît aujourd'hui, précise son plan contre l'infertilité pour relancer la natalité. Il commencera par un check-up fertilité pour chacun autour de 20 ans, remboursé par la Sécu. Enfin, il n'y a sans doute pas assez de mots pour dire la terrible désillusion des supporters parisiens. Le PSG éliminé de la Ligue des Champions de football alors que la finale semblait tellement atteignable cette année. Le Paris Saint-Germain incapable de marquer le moindre but à l'équipe du Borussia Dortmund qui s'impose une nouvelle fois hier au Parc des Princes, 1-0. Boris Loumagne a suivi la déception de ses fans en nombre dans les bars de la capitale.
Ils y auront cru jusqu'au bout les supporters, jusqu'à la 88e minute et cette énième barre transversale. Mais non, le PSG n'ira pas en finale.
Dégoûté, comme tous les ans, j'ai envie de dire.
4 poteaux dans ce match-là, on se réveille 5 minutes avant la fin, c'est pas normal.
Et oui, un manque de réussite criant qui, à ce niveau de la compétition, ne pardonne pas, selon Joël, qui refait le match dans la rue avec ses amis.
Il n'y a pas la réussite qu'ont les grands clubs. On sent que dans les grandes occasions, les joueurs n'ont pas la même sérénité que d'autres équipes, parce que le PSG est mentalement pas au niveau, je pense, pour ces échéances-là.
Et pourtant, les supporters étaient confiants. Un tirage favorable, une équipe de Dortmund prenable sur le papier. La déception n'en est que plus grande pour Antoine.
Franchement, si on est honnête, on y croyait vraiment. On y croit tout le temps et au final, c'est jamais top, quoi. Jamais comme il faut.
Voilà, pas facile d'être un supporter du PSG. Que de tourments, d'ailleurs, hier soir dans les rues de la capitale.
Mais nous, on est là, on souffre. Jusqu'à quand ?
En cas de victoire, les supporters avaient prévu d'aller faire la fête sur les Champs-Élysées. Mais au lieu de ça...
On rentre dormir, on verra l'année prochaine. Et puis voilà, c'est bon.
Voilà, rendez-vous l'année prochaine. En attendant, le PSG, déjà champion de France, est toujours en lice pour le doubler avec la Coupe de France.
On compatit quand on entend la souffrance de ses supporters. Merci Anaïs Feugade.